Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Salut Christine.
Salut Nico.
Alors déjà, bienvenue à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs pour cette 102e émission de La Gueule Ouverte, avec au sommaire de cette émission, tout d'abord, la rencontre avec Duval MC, qui va nous présenter son nouveau projet intitulé Le Dérapeur.
Et puis, nous partirons à l'après-m, vous vous rappelez bien, l'après-m, l'ex-McDo de Sainte-Marthe. Il s'y tenait une conférence de presse pour annoncer l'ouverture du resto.
Vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission d'Attaque Marseille, et c'est parti.
Déjà on fait avec ce qu'on a, best règle d'or ever, déjà c'est juste deux syllabes, comme un point de départ, déjà on a dégagé Godin, j'ai failli pleurer, à Marseille un adjoint, l'open data, on croit rêver, on a viré Center Park de la forêt des Chambarans, sauver la vallée du Tescou entre Albi et Montauban, déjà y'a de la volonté, des idées, des solutions, ça essaye de changer la donne en matière de distribution, des circuits pour locavores, ou des copes et des AMAP, des applis pour recycler, des objets ou de la des outils pour changer le monde, plein de no-code et des hacks. On se partage mieux les conseils, on peut apprendre sans pour la vie s'endetter. Des Fab Lab et des tiers-lieux, alors viens te décanter.
Ouais, viens au bal des causes. 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 Ouais, viens au bal des causes.
Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Duval MC, qu'on apprécie beaucoup dans notre émission La Gueule Ouverte.
Salut à tous. Salut Marseille, salut Radio Galère.
Vous avez d'ailleurs pu l'écouter à de nombreuses reprises. Et aujourd'hui, il va nous présenter son nouveau projet intitulé Le Dérapeur. Alors, salut Duval MC, ça va?
Ouais, ça va, super. Il fait trop beau là.
Ouais, c'est
on
super.
Est au mois de novembre 2022, tu vois.
Alors, peut-être pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, j'imagine qu'ils sont très peu nombreux, mais bon, est-ce que tu pourrais quand même nous, te présenter rapidement?
Duval MC, ça fait 20 ans que ça existe, approximativement. J'ai démarré en 2003-2004, j'ai fait 4 albums de rap, on va dire de rap engagé, même si j'aime pas beaucoup ce terme. On peut dire rap écologiste, écoféministe de plus en plus. Altermondialiste aussi, carrément. Moi, c'est un mot que j'aime bien, que je trouve qui est porteur de sens dans le monde dans lequel on vit. Anticapitaliste, antiraciste, férocement. Là, ça vient du bide aussi, anticolonialiste. J'ai souvent, dans mes morceaux, parlé de des méfaits de la politique post-coloniale de la France en Afrique. J'ai parlé du génocide des Tutsis du Rwanda, j'ai parlé de plein de choses. De choses qui sont parfois très graves, mais avec un maximum, enfin pas un maximum, mais un peu d'humour, quoi. J'essaie d'amener les choses d'une manière qui soit agréable à écouter. Où on peut, avec Duval MC, on peut un peu s'instruire et puis en même temps passer un bon moment parce que c'est avant tout mon travail, c'est sur la scène, c'est le live. Donc moi, ça fait 20 ans que je fais de la scène, j'ai fait un peu plus de 200 concerts, ce qui n'est pas énorme sur 20 ans, mais bon, c'est mon vrai métier, c'est de mettre l'ambiance dans des concerts, quoi.
Et alors, comme je disais en introduction, hein, La Gueule Ouverte, on te connaît donc comme rappeur, hein, comme tu viens de le dire. D'ailleurs, on passe régulièrement tes morceaux, mais alors figure-toi qu'on te connaît moins comme des rappeurs. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau projet? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus?
Alors, Le Dérapeur, c'est un constat simple qui est que... c'est un principe de réalité, en fait. Un principe de réalité, moi, je suis passionné par le monde des idées, depuis toujours, par le langage, par les idées, les pensées, la politique, dans le bon sens du terme, et la société, quoi. Par rapport à ça, principe de réalité, je me suis posé la question, quelles sont les idées qui ont le plus d'influence sur les gens à l'heure actuelle, en 2020, dans les années 2020. J'ai constaté en fait que parmi les trucs qui avaient le plus d'influence, ben, c'était le rap. En fait, la culture rap, l'idéologie rap, les valeurs qui sont véhiculées par le rap ont, à mon sens, beaucoup d'influence sur les gens, sur le grand public, a fortiori à Marseille, parce que moi j'habite dans les quartiers nord et le rap est très présent dans le langage, dans les rapports entre les gens. Bien sûr, tu l'imagines pas dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que moi je suis rappeur, j'ai grandi avec le rap, j'ai été un grand amoureux du rap, hein, à la base, et ça fait partie de ma culture complètement. Donc je l'ai beaucoup défendu, le rap, en faisant moi-même, c'est-à-dire essayer de faire du bon rap, essayer de faire des bons textes, et il s'est avéré que maintenant je ressens le besoin de dénoncer le rap, de pas le prendre comme un truc positif, mais de le prendre aussi comme de montrer que ça peut être nuisible pour la société finalement, en tant qu'idéologie, en tant que, presque j'ai envie de dire, en tant que dogme. Voilà, c'est un parti pris. Le dérapeur, c'est un parti pris. C'est, on prend le rap comme un dogme, comme si c'était effectivement une religion, hein, voilà, avec ses prêtres, ses archevêques, ses imams et tutti quanti. Et de voir si le rap était une religion, quels seraient ses méfaits, en fait, ses conséquences, son influence. Le rap a une influence désastreuse sur les gens, sur nos têtes, nos idées, nos cerveaux, parce que les Kalash, AK-47, parce que les violences faites aux femmes, le sexisme, parce que l'apologie de l'esclavage sexuel, hein, c'est omniprésent dans le rap. Les références à la Jonquera, au bordel espagnol, les références à Pattaya, à Phuket, aux lieux les plus connus de la prostitution dans le monde, et de la pédocriminalité aussi. Voilà, c'est toute une image de la femme, bien sûr, qui est véhiculée par le rap, qui se résume en deux archétypes, hein. T'as la mère courage, pour qui on va éventuellement charbonner, voilà, pour nourrir la mama et tout ça. Mais celle-là, on n'entendra jamais parler, en fait. Elle est mise en scène uniquement que comme mère ou comme mère courage. Enfin, voilà, c'est l'archétype de la femme. Ou le reste du temps, et c'est beaucoup plus présent cet archétype-là, c'est la prostituée, la fille, l'objet sexuel, en fait, l'objet de satisfaction de l'homme, le désir de l'homme, la domination de l'homme, cet archétype-là de la femme, qui est désastreux et qui fait beaucoup de mal aux représentations qu'on a de la femme.
Mais la question qui vient, est-ce que c'est vraiment... on peut mettre tout le rap dans le même panier. C'est ça qui est un petit peu... qui me questionne, en fait.
Ben, c'est un parti pris. Moi, je prends le parti de mettre tout le monde dans le même panier parce que j'estime... et là, c'est les chiffres qui parlent. Hein. Tu peux aller vérifier sur des chiffres tout à fait réels de vente de musique enregistrée. Le rap fait un carton, c'est la musique la plus écoutée par les jeunes, c'est pas loin d'être la musique la plus écoutée tout court, en tout cas c'est la musique la plus vendue tout court, et c'est de ce rap là dont je parle, c'est le rap qui cartonne, le rap qui fait des millions de vues dans YouTube, évidemment je sais qu'il y a des très bons rappeurs, il y a des très bonnes rappeuses, il y a des gens qui font des trucs formidables, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours, et il y en aura encore, il y a... il n'y a pas de souci, moi, si tu veux, c'est un parti pris, j'ai besoin de simplifier les choses, j'ai envie que mon message soit entendu de manière simple et efficace, entre guillemets, donc voilà, pour moi, je dis le rap, évidemment, c'est à chacun de faire la part des choses. Et je pense que mon propos va intéresser notamment les amateurs de rap et les gens qui kiffent le rap pour de vrai, quoi, pour des bonnes raisons. Et eux, ils sauront faire la différence, je le sais.
Alors, tu parlais d'anticapitalisme au début de l'émission. Alors, ça tombe bien parce qu'on est dans l'émission La Gueule Ouverte, l'émission d'Attaque Marseille. Est-ce que tu... je sais pas, est-ce que tu as été amené à fréquenter cette association? Est-ce que... voilà, si tu as eu l'occasion d'entretenir des rapports avec Attaque, ça serait intéressant de...
Ben, complètement. Alors, moi, je soutiens Attaque. Enfin, Attaque, ça fait... ça fait un peu partie de mon histoire. Figure-toi que j'avais pile 20 ans quand à l'époque, j'étais avec une copine qui lisait Bourdieu, qui faisait des études de sociaux. À l'époque, elle lisait Bourdieu, elle avait le Monde diplomatique, elle achetait le Monde diplomatique. Et je le lisais chez elle, et là, j'ai vu la naissance d'Attaque, c'est-à-dire le, je crois que c'était Ignacio Ramonet,
oui,
un article voilà, fondateur voilà, qui jetait les bases de l'association Attaque pour la taxation des transactions financières et la taxe Tobin à l'époque, on parlait de ça et tout ça, et un petit peu les germes de ce qu'allait devenir l'altermondialisme avec le Larzac 2003 comme point d'orgue à un mouvement international, internationaliste, universaliste, écologiste. Et voilà, c'est un, voilà, moi je fais partie de cette histoire-là. Donc Attaque, on s'est suivi souvent. Moi j'ai déjà joué pour Attaque, j'ai déjà fait des concerts de soutien. on s'est croisé sur plein de luttes et puis j'avais participé aussi en 2015 aux universités d'été d'Attaque. J'avais rencontré Rick Toussaint, Suzanne Georges, tout ça. Enfin, c'est très chouette. Et puis j'ai beaucoup appris grâce à cette association. J'arrive plus à parler tellement j'ai d'émotion de parler pour Attaque. Non, voilà.
Oui, puis plus récemment, tu as pu fréquenter la troupe de théâtre, les Ascendants, qui ont quand même...
Ah ben ouais, carrément, ouais, là, ce qu'ils font, c'est super. Moi, je me suis bien marré. Ils ont écrit des petites pièces de théâtre comme ça qui vont bien et ça fait très plaisir. C'est une utilisation du théâtre que je trouve très chouette. C'est vraiment proche des réalités, des trucs qu'il faut dire en ce moment. Et donc, si tu veux, c'est un peu écrit... dans le jus, quoi. C'est écrit au besoin, quoi. On a besoin d'écrire ça et on le joue sur scène pour en parler maintenant, quoi. C'est très très actuel et ça c'est une bonne façon d'utiliser l'outil théâtre.
On parlait donc d'anticapitalisme au début de l'émission. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'industrie du rap? Je crois qu'on peut parler clairement d'industrie quand tu parles des millions de vues. J'imagine que derrière se jouent des choses voilà, économique hyper importante. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus?
Ben, le capitalisme, il transforme tout en produit. Donc, il a fait de la street credibility une valeur. C'est-à-dire qu'il s'est servi, à travers le rap. Quel est le truc qui vend le plus, finalement, dans le rap? C'est cette authenticité thug. Si tu veux, je t'explique le mot thug ou le mot authenticité.
Ouais, je veux bien,
je
complètement.
Faire les gros yeux.
Là, je suis un peu largué.
Là, t'es choqué, là. Un thug, c'est un thug, c'est voilà, c'est la zone, quoi. C'est quelqu'un qui, voilà, qui n'a, c'est un peu la misère aussi intellectuelle, quoi. C'est vendre de la drogue pour s'en sortir, faire des allers-retours en prison, avoir une vie... compliqué et donc il y a une esthétisation de ça à travers le rap. C'est comme une inversion des rôles, en fait. C'est donc c'est un parti pris esthétique qui fait partie de l'histoire de l'art, l'histoire de la culture, l'histoire de la musique aussi, hein, parce que c'était un peu le rock aussi. Le rock, c'était la voix des sans-voix, c'était la voix du peuple, c'était l'opportunité à l'époque du punk, par exemple, de dire bah, voilà, moi je sais pas jouer de la guitare, mais je joue de la guitare quand même, et j'arrive et je fais n'importe quoi, et je crée mon groupe, et je braille, j'ai pas besoin de savoir chanter, j'ai le droit de le faire, et tout ça. Donc le rap, c'est aussi cette culture-là de populaire, la voix du peuple qui s'exprime. Et autant au début du rap, il y avait une nécessité de sortir de la cam, de sortir, parce que l'héroïne faisait des ravages aux États-Unis, en France, à Marseille, la French Connection, enfin bon, bref, ça a été une catastrophe. Il y a toute une génération de Marseillais qui sont morts à cause de l'héroïne. Et le rap est venu comme une bouée de sauvetage. C'était le principe du rap, le message au départ, c'était vas-y, va danser, va graffer, va toaster, sors des textes, invente des trucs, ce qui te passe par la tête, tu peux le chanter, ça a un intérêt, c'est vas-y, et fais quelque chose de ta vie, et c'était une manière de s'en sortir. Ça, c'était le tout premier message du rap. Et puis ensuite, alors est-ce qu'il y a effectivement dans une société de plus en plus capitalisme, il y a eu le rap a rapidement perdu son essence positive pour s'intéresser de plus en plus à des choses négatives, voire ultra négatives. Et en fait, la négativité, le côté méchant, cruel, discriminant, sexiste, il a été comme un gage d'authenticité. En fait, un rappeur, maintenant, s'il montre pas qu'il méprise les femmes, s'il montre pas une ou deux voitures de luxe dans son clip, s'il montre pas qu'il est familier des armes à feu, qu'il connaît les noms des armes, de comment ça marche et tout ça. Ouais. S'il nous explique pas à longueur de couplet comment ça marche de vendre de la drogue et tout ça, ben il est pas crédible, en fait. Il est pas, voilà. Donc ils sont tous un peu obligés d'en rajouter à chaque fois là-dessus, quoi. Et ils tirent leur authenticité de ça. Et le voilà, c'est le. Je pense que c'est le côté capitaliste qui s'est auto-alimenté, quoi.
Si on veut t'écouter si on veut écouter le dérapeur, ouais. Ça se passe où, comment?
Alors ça se passe sur quatre endroits, ouais. Dans YouTube,
ouais.
Évidemment, comme je le faisais avant quand je faisais les débats d'idiots avec Duval MC. Il y a eu une époque où j'ai eu quelques succès avec des vidéos qui ont bien marché à l'époque, et ça c'était une aventure très très chouette, ça s'appelait les débats d'idiots. Ben, j'ai un petit peu recommencé ça avec le dérapeur, même si c'est sur une thématique différente. Donc dans YouTube, évidemment, la chaîne s'appelle Le Dérapeur, et sur Instagram aussi, c'est important. C'est un peu, y a un peu tout le monde qui est sur Instagram, et puis c'est un chouette espace quand même d'expression. TikTok également. Voilà. Alors ne te moque pas.
Il y a des
choses, des chouettes choses à faire aussi sur TikTok.
J'en doute pas.
Et puis bien sûr Facebook, parce que les EHPAD et tout ça, quoi. Voilà, c'est normal. Non, je rigole. Les Facebook, ça s'appelle Le Dérapeur dans Facebook aussi. Donc il y a toutes les vidéos du dérapeur sortent dans Facebook. Donc vous n'avez même pas besoin de sortir de Facebook si vous voulez vous découvrir le message du dérapeur.
Duval MC alias Le Dérapeur, merci pour ton intervention.
Merci à toi.
Allez, une dernière petite question si tu devais...
Une question piège.
Question piège.
Oh non,
si tu devais retenir qu'un seul morceau de rap, que tu devais partir sur une île déserte, n'emporter qu'un seul morceau, qu'est-ce que tu choisirais? Et ça sera la prochaine chanson pour nos auditeurs et nos auditrices.
Ah ben, ça serait L'Enfant Seul.
Allez, L'Enfant Seul.
Oxmo Puccino.
C'est parti.
dans une chambre vide. Tu pries entouré de gens sombres voulant souffler. Celui qui a le moins de jouets, loin du chouchou. Celui qu'on fait chier, le cœur meurtri, meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix. Mais dépit pense qu'en guise d'amis, son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe. Mon texte coupe l'enfant seul en deux espèces. Ceux qui baisent à l'excès mais souhaiteraient se fixer à une femme plutôt qu'à mi-fesse quand l'autre sort écoute. Souvent la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide. La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac, l'estomac sur les genoux ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? T'es l'enfant seul, c'est pas facile, on se comprend, peu le savent. Que je le sache, ça te surprend. Ils matent par la vitre, la solitude qui mine fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, il faut qu'on se libère, disent-ils, ils n'en discutent pas. Confondent la rime et l'acte, la fuite et le suicide impact. Une promo sans traque, pas trop de mots, nobody n'a capté le sale souhait l'envie. De se laisser par le coup pendu pour punir les parents qui pourraient aimer l'enfant trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant naît, c'est le départ en tête. L'embêtement qu'en passe-temps on fait des parents bêtes. Maîtrise dans 6 ans, sentiment en 6 ans, sinon dans 6 ans, on me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe. Celui des qui on se moqueront comme Coluche. Ou bosse dans le hall au groupe massif. Lost dans le steak, haché plantant chaque postulant à son poste. Vu que les conneries de gosses de rue couvrent souvent un jeune qui souffre d'un gros gouffre affectif. Grandir sans père c'est dur, même si la mère persévère. Ça sert mais pas à trouver ses repères c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, demande à Pitch t'assure. T'as pas saisi, enlève la mer de la Côte d'Azur. Quand ces gosses poussent leur souffrance aussi, nous savons tous que personne ne guérit de son enfance. Même un torse poilu ne peut oublier sa vie de gosse du divorce, rossé par son beau-père. L'enfant seul c'est toi, eux, lui, elle. Oxmo Puccino, voix de Niel. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance.
Dans ce lieu est un lieu, je dirais, c'est un lieu d'hétérotopie. C'est ça, hein, Fatih ?
Oui, c'est une hétérotopie.
Le lieu ou l'endroit où on réalise nos rêves. Tout d'abord, on tient à vous remercier à vous, parce que la justice médiatique, elle a pu faire bouger quelques lignes, qu'elles soient politiques ou juridiques. On est parti d'une lutte, et cette lutte-là nous a fait grandir. La zone de là où on sort, elle est souvent stigmatisée, elle est souvent mal vue, alors qu'on oublie que dans cette zone-là, elle produit une richesse, et cette richesse-là est la richesse de notre France, d'un pays de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous sommes pour la plupart des enfants d'immigrés, mais fiers de l'être, parce qu'on ne peut pas oublier notre histoire, l'histoire de nos anciens. Cette histoire, souvent, qu'on cherche à ignorer, qu'à libérer ce pays, qu'à reconstruire ce pays, et qu'ils essayent chaque jour de pouvoir se battre parce que nous sommes des enfants de guerriers, parce que les enfants, ses parents, quand ils sont venus ici, c'était des travailleurs et des travailleuses. Nous, on s'est battus pour pas que cet ascenseur social puisse disparaître de nos quartiers. Parce que quand je suis rentré moi dans ce restaurant, comme d'autres enfants ou d'autres personnes plus âgées ou moins âgées, dans ce lieu-là, on était en perte de confiance. Ça m'a aidé à reprendre confiance en moi, ça m'a aidé à travailler en équipe, ça m'a aidé à évoluer ou à avoir une perspective d'évolution de carrière. Ça m'a aidé à rêver parce que nos enfants ou les enfants d'aujourd'hui ne rêvent plus. Ne rêvent plus parce qu'on leur tend plus la main qu'alors à l'époque. Oui, c'était difficile, mais nos quartiers étaient vivants. Ils étaient vivants parce qu'il y avait la police de proximité qui était là, il y avait les centres sociaux, les centres aérés, il y avait des grands frères et des grandes sœurs qui veillaient. Et aujourd'hui, on pleure pourquoi on a réussi à créer des voyous low cost qui perdent leur vie très jeunes, 14, 12, 15 ans, 20 ans. Et nous, enfants de ces quartiers-là, on ne peut pas rester inactifs. Parce que moi, pendant 23 ans, j'ai travaillé ici. Pendant 23 ans, ce sont ces habitantes et ces habitants qui m'ont aidé à gagner ma subsistance. Quand il y a eu le Covid, eh ben, c'était un devoir de pouvoir leur rendre la monnaie de leurs pièces. Parce que ces habitants n'avaient pas peur de mourir du Covid, mais avaient peur de mourir de faim. On s'est dit, nous sommes une ZAD, pas une zone à défendre, mais plutôt une zone à développer. Et on s'est dit, nos bonnes intentions ne valeront que par nos actes. Et aujourd'hui, ce sont nos actes qui s'expriment à notre place. Je suis fier et satisfait, parce que d'avoir une satisfaction personnelle, c'est un droit. Mais j'ai un intérêt commun. Et cet intérêt-là, ce sont pour mes frères et sœurs que je ne connais pas et qui souhaiteraient qu'on leur tende la main. Ces frères et sœurs n'ont pas de couleur ni d'odeur. Parce que la misère n'a pas de couleur, ni d'odeur et ni de frontières. Et on ne souhaite pas travailler que pour les quartiers nord. Parce qu'on peut voir dans d'autres quartiers ou dans des quartiers sud, c'est peut-être même bien pire. Parce qu'eux, ils sentent l'odeur du gâteau. Ils la voient, mais ils ne la goûtent pas. Et tourner vers Andoum, ou à Herbel, ou à La Cayolle, souvent on parle. Mais nous, notre souhait, c'est de pouvoir construire ces petites passerelles et de pouvoir se dire pourquoi et pour qui on existe, ou qu'est-ce que c'est une femme ou un homme bien. Et on essaye de s'interpeller et toujours essayer de se remettre en question, parce que notre force à nous, c'est nous. Mais notre faiblesse, on en est conscient que c'est nous-mêmes, c'est notre ego. Et nous, à travers cette lutte-là, on a mis notre ego de côté et on a essayé de ne pas perdre le but. On a signé les premiers contrats, j'avais le cœur qui palpitait. Nous, on ne souhaiterait pas que ce lieu, ce soit un restaurant, et un simple restaurant ou un restaurant économique. On souhaiterait qu'il soit un restaurant politique, mais à partisans. Les collègues des Fralib, ce sont nos grands frères. C'est eux qui nous ont montré cette voie de pouvoir préserver l'outil de travail. Et on se dit que le plus dur, ce n'est pas de réussir, c'est de durer. Ben, on va essayer de se battre pour pouvoir essayer d'être exemplaire et de ne pas décevoir toutes ces personnes-là qui ont mis leur sueur et qui ont partagé cette lutte, cet espoir et la future réussite de ce lieu. Merci.
Discours, il est important de vous donner des éléments plus pragmatiques. La première chose, c'est que nous avons donc décidé d'être une entreprise d'insertion. Donc nous sommes agréés en tant qu'entreprise d'insertion. C'est la première chose qu'on a faite, c'est de demander un agrément d'insertion pour embaucher, dans un premier temps, les gens qui viennent chercher les colis. Donc parmi les salariés, il y a des gens qui sont ou bénévoles, ou même qui étaient dans le besoin, et c'était à eux qu'on s'adressait. Et premièrement, aux gens du quartier, puisque c'est pour le quartier que nous faisons ça dans un premier temps. Donc nous avons aussi ouvert à d'autres types de salariés, puisque nous souhaitons accueillir également des salariés qui relèvent de la justice, qui sont sous main de justice, parce que il faut, quand on sort de prison, peut-être qu'il y ait des alternatives à retourner dans ces zones qui risquent de les remettre de nouveau dans un cycle de retour en prison. Donc notre choix était de répondre tout de suite, les premiers salariés, de décider de ne pas être une entreprise d'insertion seulement, une entreprise, mais d'être également une coopérative, une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui a été créée le 5 septembre dernier. Et les salariés, les anciens salariés, les habitants, les clients, les fournisseurs peuvent faire partie de la société. C'est l'intérêt, puisque notre projet n'est pas un projet économique, comme l'a dit Kamel, mais un projet de territoire. Nous avons donc, le 15 novembre, embauché 23 personnes déjà. Les anciens salariés qui encadreront sont encore aujourd'hui bénévoles, puisque nous avons bien sûr un problème économique. Juste pour vous donner une information, en dehors effectivement des aides qui vont nous être données pour l'embauche de postes en insertion, à ce jour, nous n'avons perçu aucune somme. Les seules sommes que nous avons perçues sont les parts et adhésions que 3700 personnes nous ont apportées. Cette manne nous permet aujourd'hui de lancer cette activité. Elle ne suffira pas. Donc il va bien falloir qu'on trouve encore des solutions, mais on a dit qu'il était temps d'ouvrir. Et donc c'est pour ça qu'on ouvre dans des conditions qui sont limites sur le plan économique, très limites. Mais on pense finalement que l'appareil de production qu'a fabriqué McDonald's est un vrai appareil de production efficace. C'est un appareil de production et un appareil d'exploitation. Il est clair que les méthodes qui sont ne vont pas nous plaire nécessairement. Mais le sens dont on parlait tout à l'heure, c'était de proposer à ceux qui nous rejoignent et qui sont peut-être aussi dans le besoin, d'avoir du sens dans leur travail, puisque nous avons décidé dans notre assemblée générale constitutive de la coopérative que tous les excédents, ce qu'on dit ailleurs bénéfices, seront systématiquement reversés à l'activité d'entraide. On a effectivement créé une entreprise comme les autres entreprises d'insertion dans la ville, mais avec un sens assez exceptionnel. Parce que derrière, il y a tout de suite la motivation qui est liée à la solidarité, à l'entraide. Et l'autre chose qui nous a touchés, c'est que parmi les salariés qui étaient restés sur la paille, qui vont être rembauchés, ils ont accepté de rester bénévoles pour nous permettre économiquement d'ouvrir. Notre volonté était d'ouvrir le plus vite possible. Et donc, on vous annonce, mais vous devez déjà le savoir, que notre inauguration aura lieu le 10 décembre. Nous annonçons à tout le monde de venir nous rejoindre le 10 décembre. Donc, si vous pouviez divulguer l'information, disant qu'effectivement, de venir à l'inauguration, qui aura lieu le 10, je pense que ce sera une inauguration officielle avec le maire de Marseille, qu'on remercie d'ailleurs, puisque le rachat par la ville nous a évité l'expulsion, voire même la démolition du bâtiment, puisqu'un permis de démolir avait été déposé à l'époque, et les huissiers venaient là tous les jours pour nous expulser. Donc on remercie effectivement la ville de nous avoir évité ce drame et le fait de nous casser l'hétérotopie dont parlait tout à l'heure Kamel. Pour l'information, hétérotopie, c'est un mot qu'a ressorti Foucault en 66 ou 67 pour exprimer le lieu où se fabriquent les utopies, un peu la cabane des enfants quand ils rêvent et qu'ils fabriquent leurs rêves. Nous avons eu un temps un peu compliqué autour d'un bail précaire qui faisait que nous ne pouvions pas emprunter. Les choses ont beaucoup évolué. La ville ne fait plus d'appel à concurrence par rapport au bail. La ville nous propose pour la coopérative un bail commercial 369 qui nous permet au moins de voir avec le temps, puisque nous avons maintenant, on sait d'avance que nous avons au minimum 9 ans devant nous. Nous restons quand même dans la volonté ou de racheter ou d'être titré pour pouvoir rester ici de manière permanente et de ne pas risquer d'être mis dehors par la collectivité à un moment ou à un autre. Soit un bail emphytéotique ou un rachat. Nous ne nous arrêterons pas à vendre des hamburgers. Nous sommes un fast-food, mais notre projet n'est pas uniquement de vendre des hamburgers, c'est aussi de poursuivre le fait que ce territoire a besoin de cette place de village qui est ici et de tout le travail que nous avons mené d'éducation populaire, tout le travail social qui est fait. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de développement, et donc on souhaite le continuer. Pour ce faire, vous avez dû remarquer à l'extérieur des containers orange avec une installation fabriquée avec un architecte qui est là, Marc.
Marc.
Et avec des artistes, et de Southside, Rara, et bien d'autres, pour en faire le village des initiatives d'entraide. On poursuit la distribution alimentaire alors même que le restaurant va être ouvert, tout à côté, pas aux mêmes heures, puisque nous serons ouverts pour le restaurant de 11h du matin au public jusqu'à 23h, 7 jours sur 7, 364 jours par an. Il en manque un.
1er mai.
Voilà. On sera peut-être à distribuer ou... sur la manifestation du 1er mai, parce que vous l'avez bien compris que la dimension syndicale et l'esprit dans lequel sont les anciens salariés, mais aussi tous les bénévoles qui sont autour, va se poursuivre. Donc nous aurons en plus d'autres activités derrière, notamment une conserverie et la fabrication de biogaz avec tout ce qui restera comme déchets alimentaires, puisque nous avons la volonté aussi de travailler sur l'engagement de nos quartiers sur la transition écologique avec les habitants de nos quartiers. Je crois que c'est tout, mais je vais du coup passer la parole à Julien, qui représente un petit peu toute la partie artistique et culturelle de ce projet.
Merci Fatih. Ça fait deux ans qu'on a intégré la lutte et la construction de ce projet. On est tout un collectif d'artistes qui est vraiment à géométrie variable. Et depuis deux ans, on a construit dans une collaboration avec les habitants, les anciens employés, les bénévoles. On a créé en fait. On n'a fait que créer des moments, des événements. On a transformé un bâtiment aussi tous ensemble. On a fait déjà une création d'une œuvre, une œuvre d'art qui est quand même ce bâtiment et qui est devenu un peu ce totem dans les quartiers nord. Puis aussi toute une programmation qui a été menée et expérimentée pendant deux ans dans une création commune. Enfin voilà, ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment aujourd'hui, avec la dimension culturelle et artistique, on réinvestit le lieu du travail. Parce qu'en fait, pendant des années, en fait, finalement, ça fait longtemps que ça a été abandonné, cet endroit-là. Et que c'est un endroit du commun. L'endroit du travail est l'endroit du commun. Et l'endroit où on trouve tout le monde. Et on a remarqué pendant ces deux années d'expérimentation qu'en fait, on pouvait proposer des choses de très grande qualité. Donc il y a des artistes qui sont, il y a des plasticiens, il y a des musiciens, il y a des gens de théâtre. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie réception, il y avait une vraie envie de recevoir, d'accueillir des projets artistiques de grande exigence sur ce territoire, mais aussi de les créer ensemble. Là, par exemple, il y a deux semaines, Joël Pomera est venu jouer sa dernière création. C'est un grand metteur en scène de théâtre. Il est venu jouer sa dernière création ici, dans la salle, quatre représentations. Et ça donne le point de départ de ce lieu aussi, de la dimension culturelle de ce lieu, qui, à partir du mois de janvier, va devenir un endroit de diffusion et de création artistique. Aussi, évidemment, tout ça à l'endroit du travail. C'est pas de devenir un tiers-lieu, c'est pas du tout l'enjeu. C'est vraiment comment on réinvestit le lieu du travail avec la création artistique et culturelle. Un lieu d'éducation, enfin, si on peut même placer ça sous quelque chose de plus large qui est l'éducation populaire, puis un endroit finalement d'échange, de débat, une agora, enfin, une grande agora où on peut construire, réfléchir ensemble. Le lien entre culturel et politique fait vraiment sens ici, dans cet endroit qui est l'après-m.
Et en même temps, on a l'impression qu'on a un capital d'image assez extraordinaire, et en même temps, on a beaucoup de mal à obtenir des choses. Par exemple, nous n'avons, par exemple, alors que ça fait maintenant plus de deux ans que nous faisons de la distribution alimentaire, nous n'avons toujours pas accès à la banque alimentaire qui refuse notre adhésion.
Et on ne comprend pas pourquoi.
Donc on a comme ça, effectivement, des choses paradoxales.
Alors qu'on a l'agrément.
On est habilité par la préfecture. Tous les lundis matins, il y a encore aujourd'hui et demain, la distribution avec entre 400 et 500 familles qui viennent chercher leurs colis.
Et surtout le courage des bénévoles qui se lèvent à 3h du matin pour aller aux Arnavaux, pour aller un peu chez les camarades, les maraîchers, un peu à droite et à gauche pour récolter et arriver à avoir à faire une distribution au moins digne. Aujourd'hui, on a un peu honte parce que on se dit on est dans un pays de droits de l'homme et dans un pays dans une puissance mondiale et on est obligé de faire de la charité en croyant qu'ils nous aident à nous alors que non, on leur demande pas de l'aide, on leur demande de nous aider à aider. Pour nous, c'est vous ne m'aidez pas à moi, vous m'aidez à aider un territoire.
C'est bien pour ça que le restaurant, a priori, sur une année de fonctionnement plein, avec notre calcul, nous devrions à minima arriver à avoir, dès la première année, un excédent de 100 000 euros. À condition, bien sûr, d'atteindre nos objectifs. Le restaurant est prévu à minima d'avoir un chiffre d'affaires, je suis obligé de parler comme ça maintenant, de 1 850 000 ou 1 900 000 euros annuels. Et en même temps, on a fait un calcul considérant que l'enseigne qui était là auparavant, qui faisait quand même, elle, jusqu'à 300 000 euros mensuels de chiffre d'affaires, nous, on est parti très bas. Et on est parti même sur la marge bénéficiaire, comme on appelle ça. Chez nous, elle est calculée à 56%, la marge brute. Par contre, McDo avait une marge de 76%. Donc c'est-à-dire qu'on part, en faisant les calculs les plus bas, si on arrive à vendre une moyenne de 300 paniers, puisqu'on parle en paniers, excusez-moi, avec une moyenne de paniers de 15 euros et quelques, 16 euros, on devrait arriver à faire des excédents. 300 paniers, c'est par jour.
Par jour.
Ah, d'accord. C'était plus de 300 paniers par jour dans les plus beaux moments ici. Et il y avait, je rappelle, 77 salariés. Nous, c'est pour ça que les gens nous disent, vous démarrez un peu fort, vous allez avoir très vite 40 salariés, là, dès le mois de décembre. On leur dit, mais attendez, faut voir comment ça fonctionne. Et en plus, le volume horaire, 367 jours sur 7, les gens commencent à 9h, finissent à 1h du matin. Donc nécessairement, il faut beaucoup de monde pour faire tourner ça. Les hypothèses les plus basses, on arrive à dégager malgré tout un excédent. Ce qui veut dire que McDonald's, ça doit être une bonne affaire quand même. Et on va aussi expliquer que c'est pas pour que quelqu'un empoche de l'argent, mais que c'est bien pour une mécanique territoriale de redistribution. Et pour nous, ce discours est extrêmement important. Nos salariés en insertion l'ont déjà compris et quand ils sont fiers de venir nous rejoindre pour ça, on se dit c'est bien. Maintenant, il faut aussi que les habitants le comprennent parce que notre première clientèle, ce sont d'abord les habitants de ces quartiers. Pour ce faire, nous aurons des menus qu'on pourra vous présenter qui seront plus bas que nos concurrents. Pas de beaucoup, mais plus bas.
Sur le sens de notre travail. Hein, c'est là où je voulais en venir.
Vas-y.
Donc, on va essayer de développer notre Uber solidaire qui veut dire
union bienveillante d'entraide pour les repas.
Mais professionnel, les acronymes.
D'entraide pour les repas solidaires. Ouvrez vous livreurs.
On aura.
Oui. Hein,
nos livreurs, et on va essayer de voir avec une petite application qui est en train de se développer, camarade qui est de Saint-Étienne, qui veut nous en faire don, elle coûte très cher, et il travaille avec la Poste.
Alors,
la Poste et d'autres.
La Poste, c'est les livreurs.
Ah non, la Poste, c'est les livreurs.
Si jamais on n'a pas de service de livraison interne,
au début,
ils nous ont proposé la Poste, mais ce n'est pas une obligation.
Et avec cette application, on peut solliciter tous les partenaires qui font de la livraison à domicile.
Restolink.
L'application, elle s'appelle Restolink.
Restolink.
Et on souhaiterait utiliser les collègues ou les associations qui sont déjà dans ça.
sachant qu'on va développer, on doit développer le Uber solidaire, puisque on vous l'a pas dit, mais pour l'instant, en plus des distributions alimentaires, on a un groupe de bénévoles qui livrent à domicile les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, les personnes du quatrième âge, les colis, on leur livre à domicile, et on appelle ça le Uber déjà solidaire. Donc on a normalement la Massif devrait nous doter d'une subvention de 8 400 € pour acheter 3 vélos cargo. On est en train de voir pour avoir des petits véhicules électriques pour faire les livraisons dans le quartier.
On dit qu'elle est née sur une plage au Kerala, au pays sacré des malas et des mandalas. On dit qu'elle est sainte et mère de tout ce qui dans ses bras cherche la paix, trouve la joie, on l'appelle Amma. On dit qu'elle attend, pleure et tente, implore Krishna, que le cœur battant, on la vit danser dans ses bras. Puis qu'un matin la déesse, Devi dans tout son éclat, se révéla et s'incarna dans le corps d'Amma. Ou Amritananda Mai, divine Amrita, autrefois Sudamani, aujourd'hui Amma. Tes mains comme des colombes s'envolent vers l'au-delà. Un rire fou, gorgé de foi, c'est le chant d'Amma. Fille de pêcheur, rien ne la vaut ici-bas. À suivre son cœur, à aimer au-dessus des lois. Être mère universelle, avoir l'amour pour combat. Ouvrir la voie, trouver le soi, devenir Amma. Ou Amritananda Mai, divine Amrita. Ton bhajan s'élève dans la nuit, ô divine Amma. Ou Amritananda Mai, en sari de soie. Ton darshan nous berce et nous unit, ô divine Amma. Mille pétales de rose valent du bout de tes doigts. C'est le matin, déjà la fin du Devi Bava. Dès lors la fillette qui ne savait que prier, que les gens honnêtes déclarent et volent alliée, s'éleva à tire d'elle au rang des grands matmas. Adapuja, mendiants et rois sont au pied d'Amma. Ou Amritananda Mai, divine Amrita, autrefois Sudamani, aujourd'hui Amma. Ou Amritananda Mai, Jiji Karamba. Ou Amritananda Mai, Kripa Kuru Amma. Quelle flamme tourne devant toi, Amritananda Mai. C'est la flamme qui jaillit de toi tout au long de la rati. Quelle flamme danse autour de toi tout au long de la rati. C'est la flamme qui jaillit de toi, Amritananda Mai. Cette magie-là nous inonde, l'eau coule de toi à moi. Tu souris et bénis dans ta ronde l'eau de la puja. Le soleil se lève sur l'ashram au Kerala. Le long de la grève glissent des barques de bois. Il reste un parfum du rêve que l'on a vécu là-bas. Rien qu'un instant, être un enfant dans les bras d'Amma. Il reste un parfum du rêve que l'on revivra là-bas. Rien qu'un instant, tous des enfants dans tes bras, Amma.
Eh bien, il nous reste à vous annoncer l'agenda d'attaque pour les semaines à venir.
Et oui, l'émission se termine. Alors, premier rendez-vous que vous pouvez noter dans vos tablettes, il s'agit de l'apéro mensuel d'attaque qui aura lieu le mercredi 14 décembre à 18h30 au bar Le Petit Nice, hein, au 28 place Jean Jaurès à La Plaine. Et ce sera un apéritif tout spécialement dédié aux 18 nouvelles et nouveaux adhérents de 2022. On vous attend nombreuses et nombreux, bien sûr.
Et puis, jeudi 15 décembre à 19h20, ça sera un nouveau ciné-débat au César, Place Castellane. Ça sera en collaboration avec deux autres associations, l'association Coude à Coude et l'association Anticorps. Et on vous présentera le film « La très grande évasion » de Yannick Kerguat et Denis Robert. La projection sera suivie d'un débat animé par Fabrice Aubert, économiste, Danielle Pellier, qui est administratrice d'Anticorps, et Raphaël Prado, ancien porte-parole d'Attaque France. Ouvert à tous et toutes.
Et puis n'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission lundi 19 décembre à 10h, bien évidemment, toujours sur Radio Galère.
Et sinon, en podcast sur notre site. Deux autres initiatives à vous signaler que nous soutiendrons. Donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, samedi 10 décembre, retenez, ça devrait être vers 18h, l'ouverture célébrée donc du restaurant L'Après-M, 214 Chemin de Sainte-Marthe, 13014, une longue histoire de lutte sociale, de solidarité, de vie de quartier, de fierté, d'espoir. Alors, allez-y le 10 décembre. Et puis, dimanche 18 décembre, eh bien, vous aurez rendez-vous à 13h à la Porte d'Aix pour la Journée internationale des migrants. Pour les initiatives qui seront organisées, ça sera pour un peu plus tard. Mais on vous tiendra au courant.
Très bien. Eh bien, il ne reste plus qu'à nous quitter. Et puis, on se dit au mois de janvier, en 2023, du coup.
Ah ben, bon boudin alors, hein, Nico.
Exactement, avec un peu d'avance. Allez, à très bientôt.
Ciao.
Salut.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.